Jeff Caron. Jeff Caron.
Il devait prendre congé cette semaine, il n'y a pas le choix. Jean-François, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien. En direct de la belle ville de Montréal.
Eh oui, de Valérygrad.
Hey, c'est beau, hein?
C'est de toute beauté, sérieux, là. J'ai été impressionné par les trottoirs. Pas déneigé.
Je sais, t'as mis des photos.
Les nids de poules, écoute, les nids de poules, c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'éléphants. Et tous les chauffeurs de taxi à qui j'ai parlé, tout le monde chiale de la situation. Mais quand c'est le temps de voter, il faut croire qu'ils oublient c'est quoi leur frustration.
Juste pour donner dernières informations, l'épouse du guide de suprême seconde succombe à ses blessures. Donc, elle est partie comme un petit poulet dans les airs. Elle est partie. Massoura, là, je sais pas quoi, 79 ans, était d'un coma, la pauvre fille, puis elle est partie au ciel. Je n'ose pas de quel bord aller en haut, là, mais garde, bon débarras. Voilà.
Goodbye, et plutôt en bas. On espère qu'elle et son mari sont plutôt
oui.
En bas, en enfer qu'au paradis.
Je ne sais pas, tu es où physiquement, juste au niveau de la connexion et de la qualité du signal. Je ne sais pas, es-tu à l'hôtel, dans la chambre, tu es où?
Oui, je suis à l'hôtel.
À l'hôtel, OK.
Donc c'est,
je ne sais pas si c'est une fenêtre, en tout cas, peu importe. Il faut dire que c'est Montréal aussi. Vas-y, plonge, Jean-François. Les conséquences du conflit, quelles sont-elles selon toi?
Ben c'est ça. Écoute, je veux dire qu'on soit d'accord ou non avec la décision de Trump d'attaquer l'Iran. Je pense que maintenant, il faut faire avec, puis il faut se concentrer plus sur les conséquences. Donc, moi, je me pose la question, qu'est-ce que Trump veut? C'est clairement la lumière de ce qu'il a fait depuis la nuit de samedi à dimanche. C'est pas de négocier avec les mollahs, parce qu'il les assassine les dirigeants les uns après les autres. Donc, le successeur de Khamenei, il a toffé 24 heures. Il a été abattu lui aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'a vraiment pas l'intention de négocier quoi que ce soit avec eux. Donc, c'est pas le scénario Venezuela où il n'y a pas eu de changement de régime, en fait. Il a simplement kidnappé Maduro, puis la vice-présidente est tout simplement devenue la présidente. Donc, le régime est exactement le même qu'auparavant. Mais donc, clairement, dans le cas iranien, c'est pas la stratégie que les Américains ont en place. Donc, la stratégie qu'ils ont en place, c'est celle d'un changement de régime. C'est problématique pour différentes raisons, parce que le changement de régime, le problème, c'est que il faudrait idéalement qu'il y ait une figure de l'opposition qui soit en mesure de rallier tout le monde pour pouvoir former un gouvernement de transition. Je sais, tout le monde dit que c'est le fils de l'ancien Shah d'Iran, Pahlavi. Le problème, je vous l'ai déjà expliqué, le type fait pas l'unanimité en Iran pour différentes raisons. Puis je pense que la raison principale, c'est que il a dit ouvertement que s'il était porté au pouvoir, il allait reconnaître l'État d'Israël et qu'il allait engager l'Iran dans les processus de paix, les accords d'Abraham, etc. Bon, ben le problème, c'est que pour beaucoup d'Iraniens, même si ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses, il y a quand même un élément d'anti-sionisme dans la psychologie collective, puis ça fait en sorte que dès le départ, le type, c'est une figure divisive qui ne peut pas vraiment prétendre à unir les forces d'opposition. Donc ça veut dire, si vous avez un changement de régime avec une personne qui ne rallie pas les forces de l'opposition, ça va ressembler à l'Irak en 2003.
La foule est anti-juive surtout, donc nécessairement, tu nous apprends également que le tuteur en place ne s'appellera pas Scheinbaum ou Shapiro, là.
Non,
c'est
exactement.
Ça que tu viens de dire, là. Ça n'arrivera pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, parce que c'est une collection d'illuminés, des braillards en noir... avec la photo de Ali, c'est complètement débile, là, des gens totalement déconnectés. Je trouve ça saucé. Mais c'est. Il va falloir que ces gens-là se retrouvent dans le nouveau leader. C'est pas évident, là. Ça, musulman à cravate, là, ça pognera peut-être pas, là.
Non, c'est ça. Puis l'autre truc aussi, c'est que moi, j'ai un collègue. Tu sais, l'Arménie, c'est un pays limitrophe à l'Iran. Donc, j'ai un collègue qui est iranien. Il a beaucoup de contacts en Iran. Puis lui, son estimation, c'est que t'as à peu près de 5 à 10 % de la population iranienne qui soutient le régime des ayatollahs. Ben, sur une population.
Combien, excuse-moi, Jean-François,
5
combien?
5 à 10 % de la population iranienne défend le régime des ayatollahs. Donc, c'est des membres de la garde, les gardiens de la révolution.
C'est bon.
C'est des gens qui profitent financièrement parlant du régime. Donc, eux, ils vont défendre bec et ongles jusqu'au bout le régime en place. Bon, 5 à 10 %, c'est pas beaucoup, mais sur une population de presque 100 millions, ça fait quand même du monde. Fait que vous avez potentiellement de 5 à 10 millions de la population iranienne qui, dans l'éventualité d'un changement de régime,
soit des emmerdeurs,
combattraient ce nouveau régime-là. Puis comment est-ce qu'ils combattraient ce nouveau régime-là? Moi, ça me fait penser à l'Irak après 2003. C'est des gens qui vont se lancer dans le terrorisme. Parce que les gardiens de la Révolution, ils sont armés. Alors, ils savent comment utiliser leur gun. Ils ont démontré le mois dernier qu'ils étaient prêts à utiliser leur arme contre la population civile. Donc, quelque part, c'est comme si Trump avait ouvert la porte à un grand bordel dans une région puis dans un pays qui est hautement explosif. Puis l'autre problème, il n'y a jamais eu de changement de régime dans le passé sans boots on the ground. Là, c'est bien beau des frappes aériennes, mais s'il veut vraiment qu'il y ait un changement de régime, ben, il va falloir que ça soit comme dans le passé. Dans le passé, il va
bon, mais ça, c'est le point de Dan. Moi, je pensais que Dan voulait dire des bottes américaines, là, mais c'est des bottes tout court.
Ouais, ça prend des bottes sur le plancher, c'est sûr.
Ça.
Hein.
C'est ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu envisages? Parce que là, il le répétait avec cet matin. Il n'y a pas de bottes américaines, il n'y en aura pas. Est-ce à dire qu'on va tenter, du côté américain, de faire des forces de coalition? Arabie Saoudite, Koweït, Oman, une espèce de collection, une armée ou une force d'intervention musulmane. Bref, les voisins qui vont intervenir sur place. Parce que je vois mal des GI du Wisconsin aller baver des femmes en noir qui braquent comme des madeleines.
Non, puis on sait, si c'est le cas, on sait très bien comment ça va finir. L'armée américaine va avoir des milliers de morts. C'est ça, la population.
Donc, c'est qui les boots underground, selon ta vision?
Ben, en fait, les Iraniens, c'est des Perses, c'est pas des Arabes. Donc,
tout à fait. Et ils ne sont pas musulmans en majorité. C'est des zoroastres, je crois, ou c'est des gens qui ne croient pas. C'est ça, exactement.
Ouais. Ouais. Donc, ils sont en guerre, larvés contre l'Arabie saoudite, par exemple. Donc, c'est pas un pays qui a beaucoup d'alliés dans la région. Donc, on peut aussi penser que s'il y avait des équivalents de casques bleus, là, saoudiens, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, qui ne seraient pas nécessairement bien accueillis par les 5 à 10 millions de crinqués de la garde.
Là, qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Les voisins, ça ne marche pas. Les USA, ça ne marche pas. Ben, tu annonces que les Français, ça va marcher encore moins, là.
Ouais. Les Canadiens, peut-être?
Ouais. Mais, on va demander à Cherney. Écoute,
ce que ça veut dire, là, c'est qu'on a les Américains ont ouvert une boîte de Pandore sans nécessairement penser toutes les conséquences de leurs actions. Puis ça veut dire que, fort probablement, la population iranienne va être laissée à elle-même pour, on l'espère, renverser le régime des mollahs. Mais le problème, une fois que ça va avoir été fait, ils vont probablement être laissés à eux-mêmes à combattre à l'intérieur d'une guerre civile contre une espèce de guérilla islamiste.
Entre ethnies aussi, comment tu analyses la dynamique interethnique également?
Ben, écoute, dans le nord-ouest, tu as des Kurdes. Donc, est-ce qu'ils vont en profiter comme les Kurdes irakiens pour faire une quasi-sécession? Si c'est le cas, qu'est-ce que la Turquie va dire? Parce qu'ils sont résolument...
La Turquie a toujours été opposée à la création d'un Kurdistan. Là.
D'un Kurdistan. Vous avez aussi des Arabes, dans le sud-ouest. Vous avez des Pashtuns. Vous avez plein de minorités. Donc, peut-être que des minorités comme celle-là vont profiter de la situation pour obtenir de l'autonomie ou faire sécession. Ce qui va ajouter une couche de problèmes à une situation qui est déjà en soi hyper problématique. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, évidemment, on peut se réjouir que Ali Khamenei a été tué. Puis, honnêtement, là, si l'enfer existe, là, j'espère qu'il y est. J'espère que les descriptions bibliques de l'enfer sont effectivement le reflet de la réalité. Parce que j'ai aucune pitié pour ce type-là. Puis, je suis content qu'il soit mort. Je suis content qu'Ahmadinejad, l'ancien président, a aussi été abattu il y a quelques jours par une frappe aérienne. J'ai aucune sympathie pour ces gens-là et j'espère sincèrement que les femmes iraniennes vont être en mesure, après presque 50 ans de théocratie, de pouvoir se dévêtir, retirer leur voile et de vivre librement. Mais moi, je me concentre...
72 vierges, par contre, t'en parles pas ben. Au final, il va peut-être se rendre compte que c'est 72 gros boys en camisole.
Écoute, sérieux, oui, j'aimerais vraiment que ce soit 72 homosexuels.
Ah oui, let's go, il fait payer le prix. Maudit homophobe à la marde.
C'est ça, écoute, ce type-là, c'est un dégueulasse, puis j'espère que c'est ça. Pour le reste de l'éternité. Mais le problème, c'est les conséquences. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on va vivre une situation Libye 2.0, Irak 2.0, puis qu'au final, on se ramasse dans une guerre civile qui va peut-être tuer encore plus de civils que le nombre de civils qui ont été tués par le régime au cours des dernières décennies. Puis si ça devait se produire, ça serait terriblement malheureux.
Excellent point. En terminant, peux-tu nous résumer un peu tes entrevues, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui te reste à faire à Montréal pour la tournée Caron World Tour?
Ben c'est ça. Écoute, vendredi soir, j'ai participé à l'émission de Stéphane Bureau à Télé-Québec. Il y avait des invités très intéressants. Malheureusement, je ne peux pas vous révéler leur identité.
Non, non.
Mais vous allez savoir dans environ 2 semaines. Ensuite, j'ai fait le podcast.
T'es-tu pincé? T'es-tu chicané?
Non, ça s'est très bien
passé. T'as-tu fait traiter de pro-russe?
Non, mais vous allez voir. A priori, ça risquait d'être très explosif avec les autres personnes qui étaient sur le plateau, puis au final, on s'est très bien entendu.
Ben oui, t'es un gars modéré, là. Je veux dire, t'es un gars, t'es pas...
Ben oui,
mais... Tu sais, je veux dire, il y a tellement... Il y a une fabrication, là, des médias de Montréal, là. Je veux dire, on en subit les conséquences à Radio X, là, depuis des années. Une fabrication, là. C'est ça.
Ouais. Puis après ça, j'ai fait le podcast de Rémi Villemur, Héloïse Bois. J'ai fait Jer Alain hier. Puis ce matin, avant mon départ, une entrevue avec Alexandre Lavoie et Rebel News. Donc, je suis très content.
Très bon. Vas-tu donner un petit 5$ au gars qui quête en avant de l'ancien HMV? Non?
Peut-être.
Il y en a besoin, Spurge.
Par contre, c'est malheureux personnellement parce que je rentrais à Yerevan mercredi. Puis je devais partir avec ma famille jeudi pour notre semaine de relâche à Dubaï. Puis on s'entend que les plans vont devoir malheureusement changer.
C'est clair. Merci beaucoup, Jean-François. Et bon retour. Salut,
merci.
Bye.